Incontri in Catalogna, un documentario di Pia Pedrazzini. Qualcuno una volta ci disse che la Spagna è un paese senza compromessi, un paese che si ama o si odia. E forse chi emetteva questo giudizio non aveva tutti i torti. Al lato pratico, tuttavia, ci siamo accorti che sono più le persone che amano la Spagna, anzi l'adorano, che non quelle che preferiscono non andarci. E tra quelle che affrontano un viaggio nella penisola iberica, ancora meno sono quelle che sappiano sottrarsi al fascino del folklore spagnolo. Certo che Barcellona non rappresenta tutta la Spagna, ma ciò nonostante anche Barcellona ha il suo folklore e un carattere tutto suo, affascinante. Oggi avremo occasione di parlarne. Ma prima di iniziare, vorremmo ancora dirvi una cosa. Ci è parso, incontrando le personalità della Barcellona, anzi della Catalogna, dell'arte e del folklore, che esse particolarmente e più che altrove riassumessero in sé i caratteri che distinguono questo popolo da qualunque altro, che lo fanno, se ci permettete l'espressione, un popolo di isolani diversi dagli europei. Seguendoci quest'oggi potrete notare l'estrema cortesia, la cordialità, l'allegria che si incontrano giornalmente, ma anche, e qui pensiamo all'intervista con quella personalità affascinante e diversa, strana anzi, che è Salvador Dalí, la fantasticheria, l'irrazionale, un che di spiritico quasi, che sembrano accompagnare questo popolo. Vorremmo dire che gli spagnoli camminano sempre al confine tra il reale e il soprannaturale, tra il fisico e il metafisico, tra l'immaginazione e la morte. Parole grosse? Forse. Ed allora perdonateci. Ma ascoltate e godetevi anche voi i 10 minuti con Salvador Dalí. Ma veniamo al sodo. Ecco il nostro primo incontro di oggi.
C'è un nome che torna molto spesso quando si viaggia in Catalogna specialmente, ed è quello della Sardana. Abbiamo avvicinato Jaime Torrens e gli abbiamo chiesto, davvero esperto quale egli è, che cos'è la Sardana.
La Sardana è un baile, sì, desde un punto di vista musicale, scritto in tempo di 2-4, ossia in tempo binario, compuesto de dos partes llamados cortos y largos. Los cortos, los danzantes, que trazan sus figuras geométricas con los pies, se caracteriza porque tienen los brazos caídos. Y los largos, su característica es que tan pronto la orquesta, que en este caso es una cobla, cobla es una orquesta típica de Cataluña, cuando la cobla inicia, tan pronto inicia los largos, los danzantes levantan los brazos, siempre cogidas las manos entre los danzantes.
Dobbiamo interromperla un attimo perché altrimenti non ci sentiamo più di tradurla molto con esattezza. Dunque, allora, la Sardana è un ballo catalano proprio, e è un ballo in due quarti, va ballato tra ballerini che sempre si tengono per mano. È composto di un corto e di un largo. Quando suona la parte detta il corto, i ballerini hanno le mani giù. Quando invece si balla il largo, i ballerini alzano le braccia.
Molto bene, signorina, ha fatto una traduzione perfetta.
Guardi, lei parla italiano, quasi quasi vorremmo continuare in italiano.
È molto pericoloso perché, e sì, parlo qualche parola.
Allora, ci può dire come è nata la storia della sardana?
È difficile di fare una storia della sardana, perché sono molte persone che hanno dato la sua opinione completamente distinta una dall'altra. Per esempio, si credeva che la sardana è un ballo molto antico, proveniente possibilmente dalla Grecia. También si credeva che era originario della Sardegna, della vostra isla Sardegna. E questa è la semblanza del nome di sardana. Ma nel pleno Pirineo, catalano, della spagnola catalana e della catalana francese, hi ha una regione che si chiama la Cerdanya. També si credeva che era originario della Sardegna. Io credo che è un ballo molto antico proveniente dalla Grecia. Il ballo delle persone con le mani
nella mano
è un ballo primitivo. Vuol fare è bene questo italiano mio, è bene, si comprende?
Benissimo, benissimo, guardi, non c'è bisogno di traduzione.
Si comprende. Allora, il ballo di danzare la persona, uomo e donne, per la mani è una cosa antica. Allora, la sardana catalana è un ballo che la musica permette di fare composizione nettamente buona. Pues è un ballo che compositore eminente hanno fatto una composizione magnifica. La sua storia è questa. Ma la storia della sardana in Catalunya fu il primo compositore che la introdujo. Come si chiama in italiano?
Introdusse.
Che la introdusse pubblicamente, in los villaggios, si chiama Pep Ventura, Giuseppe Ventura in italiano, in catalano Pep Ventura. Questo uomo ha fatto della sardana, che era una sardana solamente si suonava 12
tempi
in corto. E la stessa misura in lo largos, in le larghi, e lo stesso compasso. Perché? Ah, è molto curioso questo. Perché 12 misure della prima parte della sardana erano le 12 ore della giornata del sole. E l'altra 12 è la giornata notturna,
ecco.
È l'ora notturna. Allora si comincia questa sardana nel tempio antico, anche oggi modernamente, per una petita flute, come si chiama in italiano?
Con un flauto.
Con un flauto che si assimilia al canto del gallo. Ecco, è il canto del gallo. Questa è la caratteristica della sardana. Allora este Pep Ventura, Giuseppe Ventura, ha fatto una modernizzazione della sardana, ha ampliato la sardana con una misura, per esempio, del corto di 39 o 40 misure e il largo doppio, 75-80 misure. Questa è la storia. E Pep Ventura è l'introduttore moderno, fa 100 anni.
Abbiamo già quasi risposto alla domanda seguente, cioè che cos'è la sardana oggi?
La sardana oggi è una danza popolare, essenzialmente collettiva e
domenicale.
No, democratica.
Democratica.
Democratica. Questo, domenicale, naturalmente, perché si danza soprattutto nei giorni di festa. Che il popolo catalano danza tanto nel villaggio come anche nella città, perché lei verrà a danzare sardana a Barcellona. Tenuti per mano, giovani e vecchi, poverinos e gente de posizione ricca, formando un circolo, danzano democraticamente questa danza.
Qual è stata la sua parte nella sardana moderna, Jaime Torrens?
Io sono un abbenedisso, si chiama in italiano, abbenedisso nella sardana, una persona che llega tarde a...
Ah, sì, un, diciamo, beh, un ritardatario.
Un ritardatario, vengo ritardario alla costruzione della sardana, a compositore, perché già eminente compositore. Per esempio, Giuli Garreta, Enrique Morera, Enrico Morera, Joaquín Serra, Eduardo Toldrà, morto fa poco, e hanno fatto composizioni di sardane molto interessanti. Io ho fatto 7 sardane che si hanno fatto molto popolare, ma come ho detto antes, come si dice in italiano?
Come ho detto prima?
Come ho detto prima, sono un abbenedisso, un ritardatario. Per esempio, il mismo Stravinsky, il famoso compositore russo, vino a Barcellona.
È venuto a Barcellona
e ha fatto la promessa di fare una sardana. Io credo che non si ricorda di questa promessa, ma per vedere che compositori eminenti hanno despertato un entusiasmo per la sardana. Questa è tutta la storia più interessante, più emotiva che io posso dare a lei della sardana, della nostra sardana.
Ecco, e per i nostri ascoltatori aggiungiamo che Jaime Torrens ha scelto questa sardana che ora ascoltate per voi.
Ci siamo. Immaginate un altro buio, luci misteriose che si accendono e si spengono, figure di maghi e di streghe che compaiono e scompaiono. No, stavamo scherzando. Siamo invece nella hall dell'albergo più chic di una metropoli con 2 milioni di abitanti. L'unico mago nel raggio di chilometri è quello che sta davanti a noi.
Abbiamo quest'oggi una fortuna veramente inaudita di poter avvicinare il grandissimo Salvador Dalì. Abbiamo appena terminato di dirgli che ci sentiamo un po' eccitati, è vero, perché pur abituati a intervistare personalità, non abbiamo mai intervistato un genio. Buongiorno, signor Dalì.
Bonjour.
Può dirci qualche cosa delle sue ultime opere?
Le 13 de décembre, ce sera l'anniversaire que naturellement personne s'occupera probablement, mais c'est très important parce que c'est le moment où Max Planck, l'inventeur de la mécanique quantique et de la physique quantique, avait trouvé pour la première fois, il avait fait une espèce de communication sur ce qu'on appelle le corps noir. Et d'après Dalí, ce corps noir, c'est la mouche. Et Dalí part à ce moment à Paris et il va faire un discours, une communication sur les mouches, parce que j'ai passé pendant 5 mois étudiant le vol des mouches, que d'après moi, Dieu nous les avait mis sur la pointe du nez et nous les fait promener sur nous pour nous faire apercevoir qu'ils sont là pour nous dévoiler les mystères même du cosmos. dont en ce moment Dali s'occupe presque exclusivement des vols des mouches. Et dans tout ce tableau, ils vont apparaître des essaims de mouches. Par exemple, il y a, dans ma dernière toile, il y en a 358 essaims différents, chacun desquels se compose de 3000 mouches. Donc beaucoup, beaucoup de mouches.
Alors, vous avez fait des études sur les mouches?
Exactement.
Et les mouches, maintenant, entrent dans vos tableaux?
J'ai découvert, toutes les grandes découvertes de ma vie ont lieu à Perpignan, dans la gare de Perpignan, et surtout dans une petite ville qui s'appelle Le Boulou. Alors quand j'arrive à Perpignan, j'ai peur à quel point il y a des fréquences, des idées sublimes qui me viennent dans cette région. Et en regardant voler les mouches dans la gare du Boulou, j'ai une espèce d'extase mystique et j'ai compris vraiment des mystères de l'univers. J'ai tout de suite annoté ces idées et j'ai passé l'été à étudier le vol des mouches. Et maintenant, j'ai des données suffisantes pour faire une communication. Mais naturellement, pour arriver à des conclusions certaines, il me faut des machines cybernétiques que je ne possède pas. Et je crois qu'à New York, je pourrais continuer mes études.
Alors, vous avez un endroit précis où vous allez pour vous inspirer?
Non, je n'y vais pas. Je passe toutes les années à Perpignan pour une chose très pratique, c'est-à-dire pour facturer mes tableaux. Alors on va à la gare, Madame Dali s'occupe de la facturation des tableaux et pour des raisons très mystérieuses que moi-même j'ai jamais pu savoir, à ce moment, quand j'arrive à la gare de Perpignan, il se produit dans ma tête des associations, des illuminations, des extases. Enfin, je crains même d'y aller à tel point que cette gare de Perpignan a une valeur stimulatrice pour ma faculté créative. Après, je parle de Perpignan. Quand j'arrive à Lyon, c'est fini. Il n'y a plus de... C'est fini. Alors, je me repose toute l'année jusqu'à que de nouveau le divin Dali arrive à Perpignan. Et là, c'est comme si ça serait rempli d'archanges qui m'illuminent.
Monsieur Dali, alors vous êtes un génie?
J'ai commencé ma vie en jouant à l'idée que j'étais un génie. Je le disais surtout aux journalistes et à des gens comme vous qui m'interviewaient. Et je le faisais plutôt pour m'amuser, c'est une espèce de jeu. Mais tout en jouant à être un génie, je l'ai devenu. Et l'éminent écrivain espagnol Eugenio Montes, qui est un des écrivains que j'estime le plus, il a dit que s'il devait comparer Dali à quelqu'un, il faudrait le comparer au archangélique Raimundo Lullio, que c'est notre grand métaphysicien. Alors évidemment, je suis presque plus qu'un génie, puisque les génies sont des choses terrestres, et moi je m'approche déjà à la chose archangélique. Donc plus que génie.
Vous ne croyez pas que c'est très rare aujourd'hui? C'était peut-être plus possible autrefois de trouver un génie?
Ah, à la Renaissance italienne, il y en avait plusieurs. Notamment, il y avait des êtres comme Raphaël, qui étaient vraiment des êtres tout à fait angéliques et archangéliques. Aujourd'hui, ça ne se trouve pas, mais il y a des possibilités d'angélisme, pas des êtres angéliques, mais d'angélisme dans les machines cybernétiques.
Alors, vous leur donnez une âme à ces machines?
Alors, ces machines, si on ne leur donne pas un programme, enfin, s'il n'y a pas un être humain, ils ne peuvent pas rien résoudre, ni pour le moment, parce que bientôt, il y aura des machines qui vont commencer à procréer, de former des autres êtres, etc.
Monsieur Dali...
Entre parenthèses, puisque nous sommes à ce chapitre de la cybernétique et la modestie, comme vous savez, n'est pas mon spécialité, j'aimerais beaucoup advertir les gens qui nous écoutent, en leur disant que, par un hasard, j'ai découvert il y a une semaine que je suis l'inventeur de la cybernétique.
Tiens.
Je m'avais endormi en lisant des ouvrages de cybernétique et je me disais, c'est très curieux, que c'est tellement familier, toutes ces choses. Je me souvenais que j'avais dessiné à l'époque surréaliste des machines à penser. Mm-hmm. Et qu'il y avait tout, il y avait les cartes perforées, il y avait tous les attributs d'une machine cybernétique. Mais je me disais, ça, naturellement, c'est produit de mes lectures, je les avais transposées d'une façon surréaliste. Et la nuit, je me réveille, soudainement, et je dis, pas du tout. C'est moi que j'ai fait ça, parce que j'ai commencé, j'étais très jeune quand j'ai fait ça. Le lendemain matin, à la première heure, je regarde, je vérifie. Et je vois que toutes les inventions de Wiener, le premier manifeste, la première déclaration sur la cybernétique, étaient faites 15 ans après que moi j'avais dessiné mes premières machines cybernétiques, lesquelles naturellement ne fonctionnaient pas, puisque c'était c'était théorique, mais l'idée et la façon de les concevoir, c'était absolument...
Monsieur Daly, je voudrais bien vous poser encore une question. Celle-ci, croyez-vous qu'il y ait encore de l'esprit aujourd'hui dans le monde?
Nous vivons l'époque de la plus grande décadence spirituelle qui a jamais existé. Mais par contre, c'est-à-dire au point de vue artistique, c'est le moment le plus bas. C'est-à-dire jamais il y a une décadence aussi grande. Mais par contre, dans le domaine de la technique, il y a justement cette date merveilleuse du 1900 et surtout la date du 14 décembre où Marplan il a initié vraiment des découvertes dans le domaine de la physique nucléaire bouleversante. Et maintenant nous vivons de tout ce qui a été trouvé à cette période du 1900, parce que Freud c'est aussi le même. C'est tout, Freud, Marplan, Einstein, toute cette période, nous vivons de ça.
Alors, vous pensez que l'esprit a pris une autre voie?
C'est-à-dire, il est dans la technique scientifique maintenant. Il essaie des êtres plus ou moins anonymes, mais l'ensemble desquels sont en train de trouver des choses absolument bouleversantes. Mais dans le domaine de l'esprit individuel, il n'y a pas, évidemment, des personnages comme Saint-Augustin, ni comme Paracelse. Ça, c'est fini, vraiment fini.
Vous ne croyez pas que c'est possible que ça revienne encore?
Dans les pays où il y a eu, ils se produiront de nouveau, mais d'après moi, tout ça est lié à des phénomènes d'ordre social et politique. Et je ne crois pas qu'il puisse y avoir une renaissance en Europe spirituelle sans qu'il y ait le rétablissement des monarchies traditionnelles. Pour moi, la monarchie est liée à une renaissance spirituelle toujours. Alors s'il se rétablissait une monarchie, immédiatement en France ou en Espagne, aussitôt vous verrez qu'il y a des gâteaux qui apparaissent et que les fourchettes ont de nouveau des ornements, les gens porteraient des perruques, etc. Il y aurait des cours et aussitôt il y aurait une renaissance spirituelle. Mais cette chose qu'on appelle la démocratie, alors ça, c'est ce qu'il y a de plus stérilisant parce que ça uniformise tout. Tous les jours, tout devient plus médiocre. Vous regardez une cuillère aujourd'hui, dans 3 semaines il sera en plastique, après ça sera encore pire, etc. C'est là. Il faut une cosmogonie monarchique pour qu'il y ait un florissement des individus. D'après moi, il faut qu'il y ait un roi pour permettre aux êtres humains d'être des anarchistes. C'est-à-dire le maximum d'unité symbolique en eux qui protège le maximum d'anarchie, de désordre et d'individualité et de collision en bas.
C'est
ça
dit...
semble un paradoxe, mais c'est une chose tout à fait certaine.
Oui, et c'est dit peut-être par le plus grand individualiste que nous avons aujourd'hui.
Merci, c'est une chose qui me flatte, parce que je considère que je suis hyperesthésique en tout, et surtout dans la structure même de mon individualité paranoïaque.
Per sapere qualcosa di più, abbiamo avvicinato il direttore della sede di Barcellona dell'Ufficio Nazionale del Turismo, signor Jorge Vila Fradera, il quale, oltre che appunto direttore dell'Ufficio di Turismo, è un appassionato di musica e di arte. Signor Vila Fradera, lei ci può fare un quadro di quelle che sono le attività culturali della città?
En m'excusant de ne pas pouvoir parler l'italien, je vais tâcher de vous dire quelques mots en français. Comme vous le disiez, madame, notre ville a vraiment une vie artistique et culturelle.
Io già suppongo e immagino che al par di me sappiate.
E continua il discorso del signor Villa Fradera. Noi amiamo particolarmente la musica, abbiamo una spiccata debolezza per la pittura ed infine contiamo il maggior numero di sale per conferenze ed esposizioni di qualsiasi altra città di Spagna. Nelle nostre mostre di pittura, architettura e scultura sono rappresentate tutte le tendenze. Non passa giorno senza che lei trovi più di un conferenziere che parli sia di letteratura che di scienze. Un luogo particolarmente rinomato per questi incontri è l'Ateneo di Barcellona. La nostra città è inoltre la sola al mondo ad avere un teatro d'opera privato. È il famoso Liceo, al sorgere del quale hanno contribuito 400 azionisti circa. Esso rappresenta un atto di fede. Infatti, dal suo esercizio non viene ricavato nessun profitto, anzi, come puoi immaginare, le spese per la manutenzione di un teatro del genere sono assai rilevanti. E per questo le maggiori famiglie si cotizzano e contribuiscono così al suo mantenimento. Costruito nel 1847, fu distrutto dal fuoco nel 1861 e ricostruito con lo sforzo economico della città intera, riaperto al pubblico nel 1862. Certo che oggi si è dovuto provvedere a delle modernizzazioni, specie per quello che riguarda la scena, ma le sale interne e l'ambiente è rimasto quello ottocentesco. Non possiamo chiudere questo nostro servizio senza menzionare ancora i famosi cori di Barcellona. Con uno di essi completiamo il panorama di questa città tanto musicale. Abbiamo trasmesso Incontri in Catalunya, un documentario di Pia Pedrazzini.